Vous écoutez, on lit pour vous.
La maladie cœliaque est de plus en plus courante, mais reste sous-diagnostiquée. Un texte de Pauline Gravel, paru le 13 décembre 2025 dans Le Devoir. La maladie cœliaque, une maladie auto-immune qui détruit la muqueuse de l'intestin si elle n'est pas traitée, a vu sa prévalence augmenter ces deux dernières décennies, souligne une étude publiée dans le journal de l'Association médicale canadienne, JAMC. Cette incidence accrue préoccupe d'autant plus les experts que cette pathologie reste sous-diagnostiquée ou est détectée très tardivement alors qu'elle peut entraîner de sérieux problèmes de santé. Plusieurs chercheurs travaillent ainsi à faciliter son diagnostic. La maladie cœliaque n'est pas facilement reconnaissable en raison de la panoplie de symptômes qu'elle peut engendrer. Les plus courants sont des symptômes digestifs classiques, des douleurs abdominales, des ballonnements, des flatulences, de la diarrhée ou de la constipation, et, chez les enfants, un retard de croissance. Ces désagréments s'expliquent par le fait que le corps d'une personne atteinte de la maladie cœliaque considère comme dangereux certains peptides du gluten qui, une fois entrés dans l'intestin, sont transformés par une enzyme, la transglutaminase, qui les rend encore plus susceptibles d'induire une réponse immunitaire. Or, en s'attaquant à ces peptides, les cellules immunitaires et les anticorps induisent une inflammation de la muqueuse du duodénum, la première partie de l'intestin grêle. Si elle perdure, elle endommage les villosités de cette muqueuse qui servent à absorber les nutriments des aliments digérés. Quand ces villosités sont très abîmées, la personne peut alors présenter d'autres symptômes, de l'anémie, une ostéoporose précoce, de l'infertilité, des fausses couches à répétition, des pathologies qui découlent d'une déficience en nutriments, mais aussi de l'inflammation et des anticorps dans cette région du corps. Et bien que certains malades puissent être asymptomatiques, leur intestin peut néanmoins subir des dommages. L'organisme cœliaque Québec affirme d'ailleurs que 9 personnes sur 10 atteintes de la maladie l'ignoreraient. Génétique et environnement. Les personnes atteintes de la maladie cœliaque ont une prédisposition génétique. La plupart sont porteuses des gènes HLA de type DQ2 ou DQ8 ou les deux. Certaines sont porteuses du gène HLA de type DQ7. Il s'agit de gènes très fréquents au sein de la population d'ascendance européenne. Pourquoi certaines personnes développent-elles la maladie cœliaque? On pense qu'il y a d'autres gènes en jeu qui augmentent la perméabilité intestinale ou la réactivité des lymphocytes. On pense que l'environnement et notre mode de vie occidental ont également un effet, explique la docteure Amélie Thérien, directrice de la recherche au Celiac Center du Beth Israel Deaconess Medical Center de la Harvard Medical School. À cet effet, la docteure Thérien évoque une étude publiée dans Science qui suggère que l'exposition à certains virus stimulerait la réponse pro-inflammatoire du système immunitaire. Elle relate aussi celle d'Elena Verdu de l'Université McMaster, publiée dans Environmental Health Perspectives, qui montre que le dioxyde de silicium, un additif utilisé pour éviter que les aliments adhèrent les uns aux autres, augmente la perméabilité intestinale et la réactivité au gluten chez la souris. D'autres études de la docteure Verdu indique que des changements au sein du microbiote intestinal, à la suite de la prise d'antibiotiques, par exemple, augmenteraient la réaction immunitaire au gluten ou amplifieraient la perméabilité intestinale. Ces facteurs environnementaux sont également cités dans l'article du JAMC pour expliquer l'augmentation de la prévalence de la maladie cœliaque observée au cours des 20 dernières années, selon une méta-analyse publiée en 2018, ainsi qu'une étude effectuée en Alberta entre 2015 et 2020. Difficile diagnostic. Bien diagnostiquer la maladie cœliaque demeure toutefois ardu. La méthode classique consiste à examiner la quantité d'anticorps dirigés contre la transglutaminase TTG-IGA présent dans le sang, car ces derniers indiquent une réaction immunitaire anormale contre les peptides du gluten, puis une biopsie de la muqueuse intestinale vient confirmer ou infirmer les doutes. Mais il arrive que les gens démarrent un régime sans gluten sans avoir passé la prise de sang. Or, une fois qu'on commence à éviter le gluten, le corps va spontanément commencer à guérir parce qu'on a enlevé le facteur qui cause l'inflammation. Il devient alors difficile de diagnostiquer avec certitude la maladie, indique la docteure Terrien. Dans ces cas, on demande aux patients de réintroduire le gluten dans leur alimentation pendant 6 semaines, une démarche qui en rebute plusieurs en raison des symptômes qui reviennent alors en force. Pour éviter cette pénible étape, les chercheurs australiens ont mis au point un test sanguin qui consiste à prélever le sang du patient et à ajouter du gluten à l'échantillon. Les cellules immunitaires en circulation dans le sang des patients cœliaques sont dotées de récepteurs qui se souviennent du gluten et qui réagissent en relâchant de l'interleukine 2. La présence de cette cytokine permet de confirmer le diagnostic. Toutefois, ce test ne fonctionne très bien que chez les porteurs du gène HLA-DQ2.5. Il n'est donc pas vraiment applicable à tous les individus, explique la gastro-entérologue. À l'heure actuelle, la diète sans gluten est la seule solution pour prévenir l'inflammation intestinale à l'origine de la maladie. Mais il est très difficile de suivre une diète sans aucun gluten. La plupart des personnes ayant la maladie cœliaque sont généralement exposées à une petite dose de gluten dans leur vie de tous les jours, souligne la docteure Terrien. Un nouveau médicament qui inhibe l'enzyme transglutaminase a toutefois donné des résultats prometteurs en Europe et devrait prochainement faire l'objet d'essais cliniques en Amérique du Nord. C'est un nouvel espoir après de multiples recherches qui ont fait chou blanc. C'était « La maladie cœliaque est de plus en plus courante, mais reste sous-diagnostiquée », un texte de Pauline Gravel, paru le 13 décembre 2025 dans Le Devoir.
L'IA est-elle devenue incontournable pour les parents? Un texte de Jeanne Claveau-Laviolette paru le 16 décembre 2025 dans Le Devoir. Récemment, le créateur de ChatGPT, Sam Altman, a affirmé qu'il était inimaginable d'être parent sans l'intelligence artificielle. Une opinion partagée en partie par certains parents québécois, mais critiquée et remise en question par une experte. « Je ne peux pas m'imaginer élever un nouveau-né sans ChatGPT », a déclaré le patron d'OpenAI, récemment devenu père sur les ondes de la populaire émission américaine The Tonight Show starring Jimmy Fallon, le 8 décembre 2025. Clairement, les gens l'ont fait pendant longtemps et sans problème, a-t-il aussitôt nuancé, provoquant les rires de la foule. L'animateur Jimmy Fallon a lui aussi éclaté de rire. « Oui, c'était possible », a-t-il rétorqué. L'emploi de l'imparfait dans cette réponse ne fait pas rire la directrice principale du volet éducation et développement de l'Institut québécois d'intelligence artificielle, Mme Shingwei Majenga. Affirmer que l'IA est incontournable pour tous les parents relève plutôt de l'anomalie et non de la norme, d'après elle. La majorité des parents au Canada et partout dans le monde sont toujours en train d'apprendre ce qu'est l'IA, affirme Mme Manjangwa. Toutefois, ce manque de littératie sur l'IA et ses imperfections n'empêche pas les parents d'utiliser ChatGPT et d'autres dispositifs d'IA générative. Selon les témoignages recueillis par Le Devoir, le robot conversationnel s'est bel et bien infiltré dans nos foyers jusqu'à la sphère très intime de la parentalité. Constat, il joue avant tout un rôle de conseiller. Multi-usage. Quand mes enfants se font des bobos, je les prends en photo et j'envoie à ChatGPT en attendant de voir le médecin. Chaque fois, ChatGPT a vu juste, témoigne Leslie Pernell, mère de 3 enfants. Je reste rationnelle, dit-elle. Je demande à Chat, mais je vais toujours vérifier auprès du médecin. Que ce soit pour l'élaboration d'une routine matinale pour son enfant en bas âge ou encore pour des conseils pratiques afin d'aider à réduire l'anxiété de sa fille, la mère de famille a su trouver en ChatGPT une boîte à outils parentaux. « Honnêtement, je m'en passerai plus », affirme Mme Pernell. Et elle n'est pas seule. Sonia Ouellet, mère de 3 jeunes ayant entre 10 et 16 ans, se sert de l'assistant virtuel pour aider ses enfants dans leurs travaux scolaires. « Je l'utilise pour donner des phrases à écrire avec les mots de vocabulaire », prend-elle en exemple. « Gérer des horaires chargés ? ChatGPT. Proposer un souper avec les restants du frigo ? ChatGPT. Aider un enfant qui ne dort pas ou qui saigne du nez sans arrêt ? ChatGPT. Ces propositions d'utilisation de l'IA viennent de parents québécois sondés par Le Devoir qui n'ont pas voulu avouer publiquement leur recours à ChatGPT à des fins parentales. Environ 29 % des requêtes faites sur ChatGPT entre mai 2024 et juin 2025 relèvent de la catégorie des conseils pratiques, selon une étude menée conjointement par l'OpenAI et l'Université Harvard. Peu d'études. Que dit la science? Impossible de quantifier et de qualifier l'utilisation de l'IA par les parents en détail, puisque peu d'études existent sur le sujet, déplore Shingwei Manjangwa de Mila. Nous avons besoin de davantage d'études. Il faut plus de recherches sur la manière dont les familles utilisent l'IA. À son avis, c'est d'ailleurs le premier élément auquel les décideurs politiques devraient s'attaquer, déjà juste pour avoir une idée de ce qui se passe. Une de ces rares études, réalisée par des chercheurs de l'Université Fordham et de l'Université de Californie du Sud aux États-Unis, stipule que 52 % des parents américains sondés utilisent ChatGPT pour des activités parentales. L'usage par les enfants de ChatGPT est significativement influencé par les encouragements des parents, peut-on aussi lire dans cette étude publiée en mai 2024. L'IA est de plus en plus utilisée dans nos foyers, tant par les parents que par les enfants, comme complément, voire comme remplacement, aux moteurs de recherche comme Google, affirme Mme Manjangwa. Un exemple? Votre enfant a une question de mathématiques. Problème? Vos notions en calcul intégral datent d'il y a plusieurs années et vous êtes rouillé. Certains parents commencent à utiliser l'IA pour répondre à ce type de questions, évoque-t-elle. Selon l'experte, un des risques principaux d'utilisation de ChatGPT par les familles reste que les enfants imitent leurs parents et viennent à s'en servir par eux-mêmes sans remettre en question la véracité des réponses qui leur sont présentées. Laisser des enfants seuls avec des outils d'IA dans leur chambre est un grand risque, car nous ne savons pas ce que ces outils diront à des personnes jeunes et impressionnables. Il reste beaucoup de travail à faire pour mettre en place des formations sur la sécurité et la littératie en IA pour les parents, les éducateurs et les élèves, un peu comme nous l'avons fait avec l'électricité. La spécialiste estime qu'il est primordial de réfléchir dès maintenant à notre façon d'inculquer des notions d'utilisation sécuritaire de l'IA à nos plus jeunes et à nos plus vieux, comme on le fait déjà pour d'autres technologies. C'était « L'IA est-elle devenue incontournable pour les parents? » Un texte de Jeanne Claveau-Laviolette paru le 16 décembre 2025 dans Le Devoir.
Une voix pour ceux qui n'en ont pas. Un texte de Megan Foy, paru le 15 décembre 2025 dans la presse. Le discours était unanime chez les orthophonistes. Les outils technologiques conçus pour les personnes avec un trouble de la parole n'étaient pas assez rapides, raconte Thomas Oulachi. Devant ce constat, l'étudiant et ses deux partenaires ont décidé de lancer Vocality, une application qui remédiera bientôt à ce problème. Deux membres de la famille de Thomas Oulachi ont souffert de la sclérose latérale amyotrophique, SLA, et ont perdu l'usage de la parole, raconte l'entrepreneur de 21 ans à la presse. Ils utilisaient ces applications, mais des fois c'était trop long. Ils préféraient utiliser un papier puis un crayon, c'était plus naturel, explique-t-il. Ces outils déjà existants permettent à ceux qui doivent composer avec un trouble de la parole de taper un texte, qui est ensuite converti en parole grâce à l'intelligence artificielle. Or, les conversations courantes se déroulent à un rythme de 100 mots par minute, rappelle Thomas Oulachi. Un rythme que les solutions commerciales peinent à atteindre en ne générant que le quart. L'étudiant en génie biomédical à Polytechnique Montréal s'est donc lancé le défi de créer un outil plus rapide et plus intuitif, car même les orthophonistes ont confirmé être dépourvus de meilleures options à conseiller. Avec Vocality, le Montréalais se targue de redéfinir les standards. L'application, qui sera testée en janvier prochain auprès d'une dizaine de participants, promet d'accélérer le processus et d'être deux fois plus rapide. Concrètement, plus on fait appel à l'application, plus elle apprend à connaître l'utilisateur, son style de communication, ses tournures de phrases, ses préférences, jusqu'à prédire les prochains mots qu'il utilisera, un peu comme le font déjà certaines applications de messagerie en ligne. Quand la personne commence à écrire son message, il y a des suggestions qui apparaissent à l'écran, résume Thomas Oulachi. Pour mener son projet à terme, l'entrepreneur s'est entouré de deux alliés pour gérer les aspects logiciels et financiers du projet. David Ruiz, qui terminera bientôt sa formation en génie logiciel à Concordia, ainsi que Kathleen Lupien, diplômée en génie physique à Polytechnique Montréal. L'application sera aussi programmée pour comprendre ce qui est dit par l'autre interlocuteur et ainsi générer des réponses possibles. L'équipe veille actuellement à peaufiner la protection des données recueillies par l'outil. Voir plus loin. La version définitive de l'application sera disponible à l'été 2026. Elle sera mise en vente, mais les trois étudiants souhaitent que son utilisation puisse être couverte par les polices d'assurance. On est en train de faire nos démarches auprès de la FDA, Food and Drug Administration, aux États-Unis, et de Santé Canada pour l'homologation de la régulation médicale, nous dit Thomas Oulachi. Vocality souhaite devenir une référence en la matière, mais désire aussi miser sur l'aspect local du produit, puisqu'il n'existe pas de solution du genre qui soit produite au Québec et qui utilise une voix à l'accent québécois. L'entreprise, accompagnée par l'incubateur d'entreprises de Polytechnique Montréal, sera ensuite bonifiée de fonctionnalités adaptées pour les différents troubles de la parole, peu importe le diagnostic. En fait, je veux aider en santé. C'est pourquoi je suis en génie biomédical. Quand en plus c'est un problème qui touche mes proches, je me disais qu'on avait les moyens de le résoudre, ajoute Thomas Oulachi. Le projet vient tout juste d'être récompensé au gala Force à venir ainsi qu'au concours Les Anges du génie, portant le total des bourses remportées à 15 000 $. L'équipe mène actuellement une campagne de sociofinancement pour son lancement. Pourquoi Vocality? Parce que la jeune entreprise optimise l'intelligence artificielle pour répondre à un besoin plus qu'humain, celui de communiquer avec la parole. C'était « Une voix pour ceux qui n'en ont pas », un texte de Megan Foy, paru le 15 décembre 2025 dans La Presse.
Les femmes sans statut témoignent de leurs conditions difficiles dans une étude. Un texte de Lisa-Marie Gervais, paru le 3 décembre 2025 dans Le Devoir. Violence verbale, harcèlement sexuel, blessures physiques et dépression. Une nouvelle étude lève le voile sur les conditions de travail abusives et l'état de santé fragilisé des femmes sans statut d'immigration. Réalisée à l'initiative du Comité des femmes du Centre des travailleurs et travailleuses immigrants, CTTI, l'étude, sous forme de recherche-action, a sondé 75 femmes, 3 ont été écartées par le comité conseil au moyen de questionnaires. Des entrevues et des discussions de groupe ont également été menées avec certaines de ces femmes dont l'âge moyen est de 39 ans. Elles étaient sans statut depuis un minimum d'un an pour la plupart, certaines l'étaient depuis plus de 10 ans. Faisant principalement du travail domestique ou agricole, elles travaillaient en moyenne 30 heures par semaine et avaient un salaire hebdomadaire moyen de 319 $. Leur absence de statut serait un facteur déterminant des abus qu'elles subissent au travail et dans leur vie, ainsi que de la détérioration de leur santé physique et mentale. Invitées à qualifier leur niveau de stress lié à leur situation d'immigration précaire sur une échelle de 1 à 10, une forte majorité des répondantes, 79 %, ont dit avoir un niveau de stress supérieur à 8. L'instabilité en emploi, à peine 25 % des femmes tirent leurs revenus d'un seul employeur, et le fait qu'elles doivent constamment chercher du travail génère un niveau de stress supérieur à 8 pour 75 % d'entre elles. Les trois quarts, 75 % de ces femmes, n'ont pas toujours été payées au salaire minimum et une majorité observe des manquements sur leur chèque de paie. Près de 60 % d'entre elles disent avoir subi un vol de salaire et, pour certaines, 12 %. C'est systématique. Elles ne reçoivent jamais tout leur dû. Cela ajoute une pression au quotidien de ces femmes sans statut, qui sont nombreuses à avoir des proches qui dépendent financièrement d'elles. Les femmes sans statut interrogées disent également vivre un grand stress associé à leurs conditions de travail difficiles et craignent pour leur sécurité. Alors que 66 % disent se sentir surveillées par leurs employeurs, recruteurs ou collègues, 56 % se font crier dessus au travail. Elles sont 42 % à déclarer subir du harcèlement sexuel et 25 % disent avoir été touchées de façon inappropriée. Quand on est au travail et juste le fait de se faire maltraiter, ça te fait rappeler que t'es bloqué, tu peux rien faire, t'es obligé d'endurer. Le fait de se sentir bloqué aussi, c'est surtout parce que je connaissais vraiment pas mes droits. Je me disais que je vais rester comme ça, je sais pas combien de temps. Sans statut et avec des employeurs abusifs, mentionne dans le rapport Julia, une femme sans statut depuis 5 ans qui s'exprime sous un nom fictif. Peur pour leur santé. Plusieurs rapportent ne pas s'être fait offrir de formation en santé et sécurité au travail, ni tout le matériel de protection que leurs employeurs sont censés leur fournir. Elles sont d'ailleurs nombreuses à subir les conséquences de leurs piètres conditions d'emploi sur leur santé. 42% ont vécu un accident de travail et 49% ont déclaré une maladie liée au travail. Une infime proportion a reçu les soins qui s'imposaient, même en cas de problème de santé chronique ou mineur. La grande majorité, 66%, des participantes à l'étude évaluent d'ailleurs à plus de 8 le niveau de stress engendré par les besoins de soins de santé. L'une des participantes de l'étude, qui est sans statut depuis 9 ans, rapporte que, pour elle, le pire, c'est de tomber malade. Toujours il y a un stress de ça. Parfois, quand on attrape un virus, on essaye de faire toutes les choses à l'ancienne, tisane, les petits trucs de grand-mère. Sans carte d'assurance maladie, les femmes n'ont pas accès aux cliniques et aux hôpitaux, y compris pour un suivi de grossesse ou un accouchement. Elles n'ont pas non plus accès à des soins préventifs féminins, comme le test PAP ou la mammographie, ou à des soins ménopausiques hormonaux, des traitements pourtant élémentaires, a noté l'une des porte-paroles du comité des femmes du CTTI lors de la conférence de presse dévoilant l'étude. Il faut que ça change. Il faut que les femmes sans statut puissent avoir accès à tous les soins de santé, sans limite et sans restriction. Cette accumulation de vulnérabilité a également un lourd impact sur la santé mentale de ces personnes sans statut. Une majorité de femmes, 59%, ont rapporté qu'elles se sentaient mal dans leur peau ou avaient l'impression qu'elles ne valaient rien. Au cours des 6 derniers mois, 76% d'entre elles ont dit avoir vécu de la tristesse, de la déprime et du désespoir, et 73% disent avoir ressenti de la fatigue ou de l'épuisement tous les jours ou presque. Le comité des femmes du CTTI réclame notamment au gouvernement fédéral et provincial un programme de régularisation des personnes sans statut, l'accès gratuit aux soins de santé, à la régie des rentes et à l'assurance-emploi. C'est notre société. On est ici, on parle français et on fait l'effort, a soutenu Nina Gonzalez, l'une des femmes porte-parole. C'était « Les femmes sans statut témoignent de leurs conditions difficiles dans une étude », un texte de Lisa-Marie Gervais paru le 3 décembre 2025 dans Le Devoir.